Romain, le son, ça va ? Comme le disait le père Richard, bienvenue en cette deuxième étape de notre parcours intensif de paix, qui s'intitule en effet « Connaître et franchir les obstacles à la paix ». Avant de commencer, un bref résumé de notre première soirée pour ceux qui auraient été absents la semaine dernière, comme Baudouin. Je rappelle d'ailleurs que vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de la paroisse. Semaine dernière, nous avons vu l'urgence de la paix, car la première mission du chrétien n'est pas d'être parfait, mais d'être en paix avec Dieu, avec soi-même et avec les autres. Nous avons vu que la paix est un don de Dieu, un don qui ne peut pas nous être retiré. Nous avons vu aussi que la paix passe par un combat, un nécessaire combat spirituel, mais qui est sain car il nous aide à grandir. Et surtout, nous avons vu que Dieu est là et agit à nos côtés, avec le soutien, si l'on peut dire, de notre bonne volonté. Ce soir, nous allons passer en revue les différentes raisons pour lesquelles nous perdons fréquemment la paix de notre cœur. Et soyons lucides, notre existence se déroule souvent sous le signe du souci. Souci de la nourriture, souci du vêtement, du logement, d'argent, du lendemain, du regard des autres. Éloi Leclerc, le résume très bien. Il dit « La relation des hommes aux choses et aux autres est souvent dominée par l'inquiétude et la peur. Inquiétude et peur de manquer du nécessaire, voire du superflu. Inquiétude et peur de ne plus avoir ceci ou cela, de perdre ceci ou cela. C'est un boulet que l'homme traîne jour après jour. » Alors ce soir, nous allons tâcher d'identifier ces boulets qui nous empêchent mal à nous débarrasser, un petit peu comme le scotch du capitaine Haddock, et de les nommer, afin de pouvoir, plus concrètement la semaine prochaine, apprendre à nous en débarrasser. Nous allons voir ce soir 5 obstacles principaux à la paix. Le premier, les soucis de la vie et la peur de manquer. Il est vrai qu'une cause fréquente qui nous fait perdre la paix est la crainte suscitée par des situations qui nous touchent personnellement et où nous nous sentons menacés. L'appréhension devant des difficultés présentes ou futures, la peur de manquer de quelque chose d'important, de ne pas réussir tel ou tel projet, les exemples sont infinis, chacun a les siens, je pense, et ils touchent tous les secteurs de notre vie. La santé, la vie familiale, la vie professionnelle, la vie morale et la vie spirituelle elle-même. Et évidemment, l'inquiétude causée par le manque ou la crainte de manquer fragilise notre paix intérieure. Alors, nous allons nous demander ce qui peut permettre de rester en paix dans ces situations. On l'a déjà dit la semaine dernière, mais les ressources et la sagesse humaine, avec ses précautions, ses prévisions, ses réserves, sont utiles, bien sûr, mais insuffisantes. Qui peut, en effet, parmi nous, se garantir à lui-même la possession assurée d'un bien quelconque, qu'il s'agisse d'un bien matériel ou spirituel ? Jésus nous le dit. Qui d'entre vous, d'ailleurs, peut, en s'en inquiétant, ajouter une seule coudée à la longueur de sa vie ? En Matthieu 6. Et de fait, il faut reconnaître que l'homme n'est jamais assuré de rien obtenir et tout ce qu'il tient entre ses mains peut lui échapper d'un jour à l'autre. Sauf deux choses, comme le dit le père Richard et avant lui Mark Twain. Les seules choses garanties sont la mort et les impôts. Alors, disons-le dès ce soir, pour conserver la paix, notre paix au milieu des aléas de l'existence humaine, nous n'avons qu'une seule solution, nous appuyer sur Dieu seul, avec une confiance totale en lui. Rappelez-vous, lors de l'année de l'espérance, nous avions fait venir Blanche Streb et Denis Marquet, là aussi, ces conférences restent disponibles sur notre site. Denis Marquet avait comme leitmotiv « Quand c'est moi, ça merdoie ». Je crois qu'il est utile de se le rappeler. Dans un autre style, celui de Jésus dans l'Évangile selon saint Matthieu, il nous dit « Ne vous inquiétez donc pas en disant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, de quoi allons-nous nous vêtir ? Ce sont là toutes choses dont les païens sont en quête. Or, votre Père Céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Demain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Matthieu 6, bien sûr. Dans La tactique du diable de C.S. Lewis, que nous avons déjà cité la semaine dernière, dès sa première lettre, le vétéran de la tentation, Screwtape, expose à son neveu novice. « Tu ne peux te figurer à quel point les hommes sont esclaves du train-train des événements ordinaires. Un de mes protégés, athée authentique, était un jour au British Museum lorsque je vis ses pensées partir dans la mauvaise direction. En un tour de main, l'ennemi, c'est-à-dire, vous vous souvenez, Dieu, hein, dans la bouche du démon, était déjà à ses côtés. Déjà, je voyais compromis 20 ans de dur labeur. Si j'avais perdu la tête et essayé d'argumenter, j'aurais été battu d'avance, mais je ne suis pas si sot. Sans perdre une seconde, je l'ai frappé là où je savais que je le tenais le mieux. Je lui ai rappelé qu'il devait être l'heure de déjeuner. » Et voilà comment un estomac peut détourner d'un appel de Dieu. Alors bien sûr, Jésus attend de nous de faire le nécessaire pour gagner notre nourriture, nous vêtir, pour voir à nos autres nécessités. Mais il veut nous délivrer du souci qui nous ronge et peut nous faire perdre la paix. Nous pouvons écouter ce doux reproche que nous adresse le Seigneur par la voix de sainte Catherine de Sienne. Je cite « Pourquoi n'as-tu pas confiance en moi, ton Créateur ? Pourquoi compter sur toi-même ? Ne suis-je pas fidèle et loyal envers toi ? Racheté et restauré dans la grâce par la vertu du sang de mon Fils unique, l'homme peut dire qu'il a expérimenté ma fidélité. Et pourtant il doute encore, semble-t-il, que je sois assez puissant pour le secourir, assez fort pour l'assister et le défendre contre ses ennemis, assez sage pour éclairer l'œil de son intelligence, ou que j'ai assez de clémence pour vouloir lui donner ce qui est nécessaire à son salut. » Et il faut bien reconnaître que c'est là la grande victoire du malin, quand il réussit à mettre dans le cœur d'un enfant de Dieu la défiance vis-à-vis de son père. Reconnaître aussi que c'est pourtant marqué par cette défiance que nous venons au monde et que notre vie spirituelle consiste à tout âge, précisément en un long processus de rééducation par la grâce de l'Esprit-Saint en vue de retrouver cette confiance perdue. Alors en conclusion de ce premier point, on peut dire en une phrase, face à cette peur de manquer, face aux soucis du quotidien, croyons que Dieu sait ce dont nous avons besoin et y pourvoit. Le deuxième obstacle, c'est la difficulté que nous pouvons avoir à croire en la providence. Et il est vrai que tant que nous n'avons pas expérimenté concrètement cette fidélité de la providence divine à pourvoir à nos besoins essentiels, nous pouvons avoir du mal à y croire vraiment. Nous avons la tête dure, la parole de Jésus ne nous suffit pas, et comme une armée de saint Thomas, nous voudrions voir au moins un peu pour croire. Alors comment faire l'expérience de cette providence? Comment la favoriser? On peut d'abord se souvenir d'une chose essentielle. Nous ne pouvons expérimenter ce soutien de Dieu que si nous lui laissons l'espace nécessaire dans lequel il puisse s'exprimer. Saint François de Sales le résume ainsi, « La mesure de la providence divine sur nous est la confiance que nous y avons. » C'est sans doute là que se trouve le véritable problème. Nous avons du mal à croire en la providence parce que nous n'en faisons pas toujours l'expérience et parce que nous avons du mal à sauter le pas de la foi. Eh bien, nous ne laissons pas à Dieu la possibilité d'intervenir. C'est un nœud parfait. Nous calculons tout, nous cherchons à tout résoudre en comptant sur nos propres forces, et nous ne laissons pas la place à la Providence d'agir. Pourtant, on peut se souvenir dans l'histoire de l'Église que les exemples ne manquent pas de grands témoins de la charité qui sont allés de l'avant avec audace dans cet esprit de foi, qui ont acheté des maisons sans avoir un sou, ont accueilli des pauvres alors qu'ils n'avaient pas un denier, mais que Dieu a pu intervenir, il a fait pour eux des miracles, les chèques, l'argent sont arrivés et les greniers se sont remplis. Mais il est vrai que si on n'engage pas une dépense sans être au préalable sûr d'avoir de quoi la couvrir, comment la providence pourrait-elle se manifester ? Cela est valable, bien évidemment, dans notre vie spirituelle. Une histoire vraie, je connais quelqu'un à qui il manquait 500 euros pour entrer au séminaire. Collecte est organisée à la fin de la messe. Après la messe, on lui remet une enveloppe fermée. Il se dit, il y a une vingtaine d'euros, une trentaine d'euros là-dedans, c'est gentil, mais ça ne va pas résoudre mon problème. Il la jette négligemment sur le siège de sa voiture, et comme il avait une conduite un peu sport, l'enveloppe tombe dessous. Et puis une semaine après, il se sent obligé de vendre sa voiture, ce qui n'était pas idéal parce qu'il en avait besoin comme il avait besoin d'argent. Scrupuleux, il l'a nettoyée. Il a retrouvé la fameuse enveloppe en se disant « Tiens, voilà mes 20 euros ». En l'ouvrant, il découvre qu'il y avait juste 500 euros. C'était juste assez, juste ce dont il avait besoin. Dieu sait ce qui est bon pour nous. Et aujourd'hui, cet ancien séminariste est devenu prêtre et c'est même le cher curé de notre paroisse. Soyons bien clairs, je ne veux pas vous dire que ce serait une mauvaise chose que d'être prévoyant, de faire un budget, d'épargner. Nos capacités naturelles sont aussi des instruments de la Providence, entre les mains de la Providence. Mais tout dépend de l'état d'esprit dans lequel nous le faisons. Il y a une différence, on le voit bien, énorme d'attitude de cœur entre celui qui, par crainte de se trouver pris de court et parce qu'il ne croit pas à l'intervention de Dieu, programme tout à l'avance et n'entreprend que dans la mesure exacte de ses possibilités actuelles, différence énorme avec celui qui fait ce qui est légitime, certes, mais qui s'abandonne avec confiance à Dieu pour pourvoir à tout ce qui lui est demandé et qui dépasse ses possibilités. Et puis, admettons aussi que pour nous permettre de grandir dans la confiance, eh bien, Dieu choisit de ne pas toujours tout nous expliquer à l'avance. Il laisse une place à l'inconnu. C'est là que nous pouvons poser un acte de foi, de confiance. Dieu nous invite à discerner, à planifier au mieux de nos capacités, mais nous n'aurons jamais tout compris avant d'agir. Regardons les exemples de la Bible. Abraham qui quitte tout sans connaître la destination. Les apôtres à qui Jésus dit seulement « Suis-moi », c'est quand même un peu court comme assurance. Ou Moïse le bègue que Dieu choisit pour être son porte-parole. D'une phrase pour ce deuxième point, faisons place à la providence de Dieu dans nos vies. Et ça peut être d'ailleurs un exercice de cette semaine, même pour des petites choses. Troisième obstacle à la paix, la peur de la souffrance. Alors que l'on soit bien d'accord ici, nous n'allons pas donner une recette miracle qui permettrait d'un coup de baguette magique de transformer la peur en paix. Notre humanité a droit aux larmes. On se souvient que Jésus lui-même, les entrailles saisies, a pleuré son ami Lazare. Je cite Jean 11, « Quand il vit qu'elle pleurait, Marie, la sœur de Marthe, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion, il fut bouleversé. Alors Jésus se mit à pleurer. » Dans ce troisième point, nous allons plutôt considérer des pistes pour essayer de percevoir que la paix, puisqu'elle vient de Dieu, reste possible dans la crainte de la souffrance et dans la souffrance. Car en effet, on voit bien qu'un autre obstacle à notre paix intérieure est cette perspective de la souffrance dans notre vie, dans le monde, dans la vie de ceux qui nous entourent. Et même pour ceux qui s'abandonnent à lui, le Seigneur peut les laisser semblait parfois manquer de certaines choses qui peuvent être jugées indispensables pourtant à nos yeux ou aux yeux du monde. Mais il ne nous laissera jamais privés de l'essentiel, sa présence, sa paix, et donc de ce qui est nécessaire à la pleine réalisation de notre vie selon ses projets pour nous. Bien sûr, il est impossible de vivre dans un monde marqué par l'imperfection et de ne pas souffrir quand ces imperfections nous touchent personnellement. Peut-être que lorsque nous subissons ou constatons des souffrances, notre force, notre secours, est alors de croire, comme le dit sainte Thérèse de Lisieux, que Jésus ne peut désirer pour nous de souffrances inutiles. Souvenons-nous aussi, lors de l'année de l'espérance encore, Blanche Trèbe nous a rappelé que le mal est un mystère et qu'il ne faut pas glorifier les épreuves, ni les échecs, ni les catastrophes. Ne pas même donner un sens à ces épreuves, qui n'en ont pas. Mais pour elle, ce qui compte, c'est la manière dont nous allons traverser ces épreuves. C'est cette manière qui peut leur donner du sens. Elle cite Marie, qui à la visite de l'ange à l'Annonciation, ne demande pas « pourquoi, mais comment cela va-t-il se faire ?» Passer du « pourquoi » au « comment ». Et puis, Blanche nous disait aussi que si la souffrance est si forte que nous avons du mal à prier, eh bien, nous pouvons demander, nous pouvons quémander même la prière des autres comme filet de secours. Alors, travaillons à être convaincus que si nous voulons cheminer dans notre foi chrétienne, que Dieu est assez bon et assez puissant pour se servir en notre faveur de tout mal quel qu'il soit, de toute souffrance aussi absurde et inutile qu'elle paraisse. Car on sait que Dieu est et n'est qu'amour. Bien sûr, c'est un acte de foi à poser ou à reposer dans la lumière de la résurrection de Jésus qui peut ici être comprise et accueillie comme la victoire définitive de Dieu sur le mal. Redisons-le, le mal est un mystère, un scandale, et il le restera toujours. Et bien sûr, nous devons faire tout ce qui est possible pour l'éliminer. Mais il restera toujours présent dans notre histoire personnelle et dans celle du monde. Alors, à certains moments de notre vie, nous serons nécessairement conviés à croire contre les apparences, et comme le dit saint Paul dans la lettre aux Romains, à espérer contre toute espérance. Car nous l'avons dit, ce que nous recherchons à travers ce parcours, ça n'est pas une vie où tout roule, zen, mais à garder la paix intérieure en toutes circonstances, y compris dans les moments les plus difficiles. Suivre Jésus n'est pas la promesse d'une vie sans croix, mais celle d'une vie où les croix portées le sont avec lui et peuvent nous conduire à la victoire sur le mal. J'aime beaucoup cette phrase d'Éloi Leclerc qui l'exprime ainsi. Laissons résonner le cri de Jésus sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il faut laisser ce cri, ce pourquoi, à sa nuit humaine, à son silence, le ressentir seulement comme un déchirement. Alors seulement pourrons-nous entrevoir à quelle profondeur le Fils de Dieu a épousé la condition humaine. Il est allé jusqu'au bout de la nuit, de nos doutes et de nos interrogations, jusqu'au fond du silence de Dieu. Souvenons-nous que Dieu ne nous abandonne pas dans la souffrance. Quatrième obstacle à la paix, qui va nous plaire à tous, les défauts et les manquements des autres. Car il faut reconnaître qu'il arrive aussi que nous perdions la paix à cause du comportement d'une personne ou d'un groupe de personnes qui n'agissent pas comme on voudrait. Que d'énervement dû à ce genre de situation. Citons de nouveau notre vétéran de la tentation. Quand deux êtres ont vécu ensemble pendant de nombreuses années, il arrive que certaines intonations de la voix, certaines expressions du visage de l'un soient intolérablement irritantes pour l'autre. Exploite ce genre de choses. Aide ton protégé à prendre pleinement conscience de ce froncement de sourcils qui l'agace au plus haut point chez sa femme. Donne-lui à entendre qu'elle sait fort bien à quel point cela l'irrite, lui et qu'elle le fait exprès. Si tu connais bien ton métier, il ne se rendra pas compte de l'improbabilité d'une telle hypothèse. Et surtout, ne lui laisse jamais soupçonner qu'il pourrait lui-même avoir des habitudes ou des tics qui exaspèrent sa femme. Comme il ne se voit ni ne s'entend, c'est un jeu d'enfant. Alors ne nous laissons pas abuser. Il y a un autre principe important qu'il faut énoncer à ce stade dans la vie spirituelle au quotidien et sur lequel nous pouvons buter. Car nous devons veiller non seulement à vouloir et à désirer des choses bonnes en elles-mêmes, mais aussi à les vouloir et les désirer d'une manière qui soit bonne. Bien sûr, je dois faire ce qui me revient pour aider les autres à s'améliorer, mais avec douceur, et m'en remettre au Seigneur, confiance et abandon. C'est-à-dire, je dois être attentif à ce que je veux et à la manière dont je le veux. Il faut reconnaître que très fréquemment, nous voulons une bonne chose, mais d'une manière pas nécessairement très bonne. Je prends l'exemple d'un supérieur de communauté qui veut la sainteté de ceux qui lui sont confiés. C'est une excellente chose, conforme à la volonté de Dieu. Mais si ce supérieur se fâche, s'irrite et perd la paix devant les imperfections ou le peu de ferveur de ses frères, alors ce n'est très certainement pas et clairement pas l'Esprit Saint qui l'anime. Et souvent, nous pouvons avoir cette tendance. Parce que la chose que nous voulons est bonne, certainement voulue par Dieu, eh bien nous pensons justifier de la vouloir avec impatience, avec mécontentement, si elle ne se réalise pas. Et finalement, plus une chose nous semble bonne, plus nous nous agitons et nous préoccupons de la réaliser. Je pense que tous ceux qui sont parents dans l'Assemblée, particulièrement de la tranche 13-16, comprennent ce que je veux dire. Ou ceux qui l'ont été, parce que les enfants ont grandi. Saint François de Sales nous dit « Rien ne retarde tant le progrès dans une vertu que de vouloir l'acquérir avec trop d'empressement. » Évidemment pas facile dans un monde qui va à 200 à l'heure, mais nous y reviendrons la prochaine fois. Ce qu'on peut se dire, pour résumer, c'est qu'un désir qui fait perdre la paix, même si la chose désirée est excellente en soi, n'est pas de Dieu. Il faut désirer, mais en abandonnant à Dieu la réalisation de ses désirs, comme il le voudra et quand il le voudra. Éduquer notre cœur dans ce sens est d'une très grande importance pour le progrès spirituel, car cela crée en nous un espace pour grandir dans la vertu de patience qui est sœur de paix. En une phrase, confions nos désirs de grandeur pour les autres au Seigneur. Cinquième obstacle à la paix, l'inquiétude quand nous avons des décisions à prendre. Notre vétéran de la tentation le rappelle avec délectation à son neveu. Rien ne vaut l'incertitude et l'anxiété pour barricader l'esprit d'un homme contre l'ennemi. Il désire que les hommes se préoccupent de ce qu'ils sont en train de faire, Dieu. C'est notre affaire, celle du malin, de les faire penser à ce qui pourrait leur arriver. L'incertitude, quand il faut prendre une décision et qu'on n'y voit pas clair, peuvent en effet nous faire perdre la paix. Peur de nous tromper, peur des conséquences. Alors, face à quelques trucs ou remèdes dans ces situations, face à une décision importante, un des premiers écueils à éviter est l'empressement excessif. Une certaine lenteur est souvent nécessaire pour bien considérer les choses et laisser Dieu orienter notre cœur dans la bonne direction. Et donc, avant de prendre une décision, il faut faire ce qui convient pour y voir clair, analyser la situation, ses différents aspects, considérer nos motivations pour décider avec un cœur pur et pas seulement selon notre intérêt personnel, prier, bien sûr, pour demander la lumière de l'Esprit-Saint, et enfin, demander éventuellement le conseil de personnes avisées. Cela dit, malgré ces précautions, nous n'aurons pas toujours la lumière, une lumière claire et évidente. Parce qu'il peut arriver que le Seigneur nous ne réponde pas ou pas très clairement. Alors, par peur de nous tromper, on va multiplier les réflexions, ouvrir 10 fois la Bible pour demander un texte qui va nous donner une réponse certaine. En réalité, tout cela risque de nous troubler plus qu'autre chose. Quand le Seigneur nous laisse dans l'incertitude, acceptons-le, là encore, paisiblement. Car, à l'inverse, vouloir toujours être certain de faire précisément sa volonté et de ne jamais nous tromper n'est pas une juste attitude pour plusieurs motifs. D'abord, le désir de savoir ce que Dieu veut peut cacher une difficulté à supporter l'incertitude. En réalité, on voudrait être dispensé d'avoir à décider par nous-mêmes. Mais la volonté du Seigneur peut être aussi que nous décidions précisément, même si nous ne sommes pas absolument certains que cette décision est la meilleure. Dans cette capacité à décider dans l'incertitude, il y a en fait une attitude de foi, de confiance et d'abandon qui est capitale. Seigneur, j'ai réfléchi et prié pour savoir quelle était ta volonté. J'y vois pas très clair, mais je me trouble pas. Je ne reste pas des heures à me casser la tête. Je décide telle chose parce que, tout bien considéré, ça me semble la meilleure affaire. J'abandonne tout entre tes mains. Je sais que même si je me trompe, tu ne m'en voudras pas, car j'ai agi avec une intention droite après avoir discerné. Et si je me suis trompé, n'hésite pas à crier très fort, parce qu'il m'arrive d'être dur d'oreille. C'est ainsi que nous pouvons rester en paix. On peut citer aussi cette histoire du pape Saint Jean XXIII qui, au moment de recevoir les premiers retours et premières réactions de sa convocation des évêques au concile de Vatican II, c'est pas rien, était particulièrement écrasé par sa charge, et dit en résumé dans sa prière « Bon, Seigneur, après tout, c'est ton Église, moi, je vais me coucher. » Et puis, parfois, nous aimerions aussi être infaillibles, ne jamais nous tromper, mais on voit bien qu'il y a beaucoup d'orgueil dans cette position. Celui qui, au contraire, accepte de se tromper tranquillement, de temps en temps, et que les autres le voient, manifeste une vraie humilité. Et puis, n'ayons pas une fausse idée de ce que Dieu exige de nous. Dieu est Père, il est bon, il est compatissant. Il connaît nos faiblesses et nos limites et il n'attend pas que toutes nos décisions soient parfaites. Pour conclure, on peut dire que le Seigneur préfère sans doute celui qui sait se décider sans trop tergiverser, même quand il reste de l'incertitude, car il y a là un abandon avec confiance au Seigneur, plutôt que celui qui se tourmente indéfiniment l'esprit pour savoir ce que Dieu veut de lui, mais ne se décide jamais. Le perfectionnisme, en réalité, n'a pas grand-chose à voir avec la sainteté. Notre vétéran de la tentation le traduit ainsi. Il, Dieu, veut leur apprendre à marcher et doit donc retirer sa main. Et s'ils n'ont que le désir de marcher, il est satisfait même de leur démarche trébuchante. Pour nous résumer les points clés, pour combattre la peur du manque, faire grandir notre foi en la Providence, apaiser notre peur de la souffrance, ne pas nous désoler des défauts des autres, et purifier notre manière de désirer et savoir désirer même quand demeure une part d'incertitude, nous avons vu qu'il y a deux antidotes puissants, l'abandon et la confiance dans le Père, que bien sûr, je peux renforcer par la lecture de la parole de Dieu, la prière, le discernement, les conseils reçus des autres. Nous verrons justement la semaine prochaine dans notre parcours de paix comment grandir dans la confiance, dans l'abandon, dans la patience envers nous et les autres. C'est un beau programme. Je rends la parole au Père Richard et je vous souhaite de beaux échanges.
Merci Ludovic. Donc, il est 9h15. Donc on va vous donner une bonne 20 minutes pour faire vos questions en groupe comme...